Vous écoutez RTL. RTL Matin, édition spéciale.
Yves Calvi.
Monsieur le Président de la République, vous allez donc pouvoir maintenant, après vous êtes enquis de la météo avec Louis Baudin, vous allez pouvoir répondre aux auditeurs d'RTL qui souhaitent vous questionner ce matin sur notre antenne. Olivier Mazerolle et François Langlais restent bien entendu avec nous. Juste une toute petite précision, après vos propos tout à l'heure concernant Air France, vous continuez de soutenir la direction d'Air France dans l'épreuve que traverse l'entreprise en ce moment ?
Je pense qu'il faut redresser cette compagnie. Il y a déjà eu beaucoup de plans qui ont été décidés.
Est-ce que vous soutenez la direction ?
Là, jeudi, je suis le représentant d'un actionnaire qui compte.
Le premier.
Le premier. Et je demande à la direction de tout faire pour éviter les suppressions d'emplois. Mais si elle n'obtient pas cette direction, c'est pour ça qu'elle doit être soutenue par le gouvernement, notamment des pilotes, les évolutions qui sont nécessaires, il y aura effectivement des décisions à prendre. Donc il faut qu'il y ait un effort de la direction, mais un effort aussi des pilotes.
Lesquels, monsieur le Président ?
Ne serait-ce que jeudi, d'assurer que le dialogue social sera pleinement respecté.
Vous discutez maintenant avec les auditeurs d'RTL. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Merci d'écouter notre radio. Le Président de la République vous écoute et attend votre question.
Mais écoutez, bonjour Yves Calvi, bonjour François Langlais et Olivier Mazerolle. Bonjour monsieur le Président de la République, cher François.
Bonjour.
Je suis retraité ancien fonctionnaire de police, militant à Noisiel, dont Daniel Vachez est le maire, et un ami du sénateur Vincent Eblé.
Donc militant socialiste.
Militant socialiste. Je voulais vous dire, monsieur le Président de la République, que le peuple de gauche est désorienté par les divergences internes au parti. Je voudrais vous dire, monsieur le Président de la République, que des millions de Français et de Français qui ont voté François Hollande lors des dernières élections présidentielles sont déçus et j'en fais partie. Que veulent les Françaises et les Français ? Ils veulent des résultats. Pouvoir améliorer leur cadre de vie. Partir en vacances. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas tous derrière le gouvernement. Mais depuis le départ de Benoît Hamon et de Arnaud Montebourg, qui était un peu la caution de gauche de Hollande, on voit que Manuel Valls et Emmanuel Macron veulent mener une politique qui est loin de celle que l'on est en droit d'attendre des socialistes.
Joël, comme notre temps est compté, je vous prie de m'excuser de vous interrompre, l'esprit de votre question, c'est de demander au Président de la République, s'il mène, et à François Hollande directement, s'il mène une politique de gauche, de son point de vue, et ce qu'il compte faire dans les semaines à venir pour rétablir le climat social, on est d'accord ?
Bien, j'en viens à ma question, je pense que François Hollande mène une politique de gauche, mais j'ai deux questions à lui poser.
Allez-y.
Monsieur le Président, que comptez-vous faire pour rétablir le dialogue et le climat social ? Deuxième question. Par ailleurs, je pense que Martine Aubry est un renfort de poids dans le débat nécessaire que traverse la gauche. Pourquoi ne faites-vous pas appel à elle ? Par ailleurs, je suis prêt à débattre avec vous à l'Élysée ou sur un plateau de télévision, quand vous le souhaiterez.
Alors, je crois que vous avez déjà répondu à la première question, oui. Vous pouvez aller directement à la seconde.
D'abord, nous reprendrons cette conversation si vous le voulez, ce serait bien volontiers. Mais sur la question du dialogue social et de Martine Aubry. Martine Aubry, elle assume des fonctions importantes, elle est maire de Lille et elle apporte sa contribution de la manière que vous savez. Elle ne souhaite pas rentrer dans un gouvernement. La question lui avait été posée dès 2012. Et elle y avait nécessairement sa place. Elle ne l'a pas souhaité parce qu'elle veut se consacrer pleinement à Lille. Je respecte ce choix.
Ensuite, ça n'empêche pas de critiquer quand elle dit Macron ras-le-bol.
Mais après, chacun a sa liberté d'expression. On ne peut pas à la fois être en dehors du gouvernement et se priver de cette liberté. Ensuite, sur le dialogue social, vous avez raison. Il y a la nécessité d'avoir toujours cette préoccupation. Mais à un moment, quand le dialogue n'a pas donné le résultat espéré, il faut prendre des décisions. Moi, je ne peux pas attendre simplement que les partenaires sociaux se mettent autour de la table et trouvent la solution. Parfois, ils la trouvent.
Vous réformez le Code du Travail et ça n'est pas dans la conférence sociale.
Je parlerai de cette question-là. Mais prenons le Code du Travail. Je sais que c'est très difficile.
C'est un sujet considéré comme de droite par les militants de gauche.
Et ce n'est pas un sujet de droite. Pourquoi ce serait un sujet de droite ? Ça serait un sujet de droite si on mettait en cause le contrat de travail, la durée du travail et le SMIC. Mais si on permet aux entreprises, avec les représentants syndicaux, d'adapter le code du travail à ce qu'est la réalité de leur activité, c'est un sujet de gauche. Parce que ça permet, d'une certaine façon, de donner plus d'initiatives plus de possibilités pour les salariés de faire entendre leur voix. Donc, le Code du travail, je sais que ce sera très difficile d'avoir un accord général. On voit bien qu'il y a des organisations syndicales qui ne vont pas dans cette direction. Alors, je prendrai, avec le gouvernement de Manuel Valls, mes responsabilités. Il y aura cette réforme, il y aura la concertation nécessaire, et puis il y aura la décision. Ensuite, il y a une question que posait l'auditeur, c'est-à-dire, est-ce que on a changé de direction? Est-ce qu'il y a eu un tournant?
Oui.
Moi, j'avais clairement prévenu les Français. Pendant 2 ans et demi, je leur avais dit, on va redresser autant qu'il est possible les comptes publics et faire en sorte que la croissance puisse repartir. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie du quinquennat où on peut commencer, d'ailleurs, à redistribuer les baisses d'impôts qui sont intervenues depuis déjà
Ça monte au niveau local.
Enfin, au niveau local, je ne suis pas responsable.
Non, mais enfin,
et il y a des engagements qui avaient été pris par les élus. Oui, mais enfin, il s'adresse à celui qui augmente l'impôt et il regarde celui qui les baisse.
En tout cas, vu des augmentations.
En tout cas, pendant 2 ans et demi, il y a eu un effort qui a été demandé. Maintenant, on baisse les impôts. Et on fait en sorte aussi que le pouvoir d'achat soit amélioré. Donc, sur la dernière partie du quinquennat, on continue de réformer. Et puisque la croissance est là, on peut davantage répartir.
Au 64-900, on vous interroge aussi, c'est une question SMS, parce qu'on évoquait Martine Aubry il y a quelques instants, sur la situation de M. Le Drian. Va-t-il rester ministre de la Défense?
Jean-Yves Le Drian est un très bon ministre de la Défense. Et il m'a accompagné dans des décisions très difficiles que j'ai eu à prendre sur le Mali, la Centrafrique, l'Irak, la Syrie aujourd'hui.
Mais je rappelle qu'il est candidat à la présidence de la Bretagne.
Il est donc candidat pour les élections régionales et je l'ai autorisé à pouvoir être candidat et être ministre de la Défense et il assumera parfaitement cette tâche.
Il conservera donc ses fonctions de ministre.
Ensuite, s'il est élu, il connaît parfaitement la règle. La règle, je l'ai posée, c'est celle du non-cumul.
Donc vous le soutenez dans sa démarche pour la campagne, mais il quittera ensuite le gouvernement. S'il est élu,
il connaît parfaitement la règle, et donc c'est celle du non-cumul.
Un auditeur, bonjour Noël.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à toute votre équipe. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour. Vous êtes Bordeaux.
Oui, tout à fait. Ma question est simple, je suis investisseur immobilier, et aujourd'hui j'ai malheureusement un gros programme sur une ville de France, et quand je cherche des investisseurs aujourd'hui français, ben, plus personne veut investir, ne placer des capitaux, et quand parce que j'ai un vivier d'investisseurs étrangers, ben, même le vivier d'investisseurs étrangers ne veulent plus investir en France. Que comptez-vous faire, Monsieur le Président, pour que les gens reviennent, en fait, pour investir correctement en France, ouvrir les portes au niveau bancaire, et ainsi de suite.
Quelle attractivité pour notre pays, Monsieur le Président de la République.
D'abord, merci d'investir. Merci de vouloir, notamment dans le secteur immobilier, du logement, à la fois créer de l'emploi et de l'activité, et assurer une meilleure qualité de vie pour nos concitoyens. Donc ça, c'est ma première réponse. Ensuite, le financement. D'abord, il y a des financements intérieurs, par les banques et par un certain nombre d'institutions. Et je fais en sorte qu'il puisse y avoir davantage de crédits vers l'immobilier. D'ailleurs, les crédits immobiliers ont considérablement progressé. Mais il faut aussi attirer des capitaux. Et je fais en sorte, avec le ministre Macron, de faire des réunions avec les grands investisseurs étrangers pour qu'ils viennent faire des opérations, des grosses opérations immobilières. Et si vous avez, sur une ville, je comprends très bien que vous ne la citiez pas, une information à me donner, et si je peux contribuer à favoriser ce financement, je le ferai. Parce que nous avons besoin de construire davantage. Tout à l'heure, sur les chiffres de croissance, j'indiquais que si nous avions finalement moins de croissance que espéré, ça tenait notamment à l'activité de l'immobilier. On a pris beaucoup de mesures, ça repart, et il faut avoir maintenant les financements très rapides. Et on va encore prendre des dispositions pour que l'accession à la propriété, ça intéresse beaucoup de nos concitoyens, notamment ce qu'on appelle les primo-accédants, puisse être facilité. Je ferai des propositions dans cette direction.
En quelques mots, s'il vous plaît, comment faites-vous pour relancer l'activité dans le bâtiment et les travaux au public, alors qu'au même moment, les dotations aux collectivités sont elles-mêmes baissées. Et c'est vous qui l'avez décidé, entre autres.
Oui.
Vous voyez la contradiction?
Non, je ne la vois pas, parce d'une certaine façon, de quoi s'agit-il? Quand l'État fait des économies, il ne fait pas les économies sur les investissements, il fait des économies sur le fonctionnement. Et si l'État, et je pense que les Français comprennent cette orientation, réduit le déficit public pour réduire demain l'endettement public. L'État ne peut pas être seul. Il y a les organismes de sécurité sociale, d'où la réforme qui est intervenue sur l'assurance maladie, sur les retraites, sur la famille, et les collectivités locales doivent faire... J'ai été moi-même. Doivent faire des efforts. Moi, j'ai été maire, j'ai été président...
On n'a plus d'argent pour investir.
Mais que ces collectivités fassent un travail d'économie. Pourquoi l'État serait le seul à le faire? Vous pensez que dans des collectivités, moi j'en ai présidé, j'en ai dirigé, il y a des économies à faire, et notamment dans le fonctionnement, avec un certain nombre de dépenses qui peuvent être revues, et pour que l'investissement, lui, soit préservé. Et c'est trop facile. J'entends des députés de l'opposition qui sont par ailleurs maires, parce que le cumul ne les gêne pas. Oui, mais enfin, ça sera terminé, puisque à partir de 2017, la loi interviendra, qui, à Paris, demande 150 milliards d'économies, 150 milliards d'économies à l'État, et lorsqu'il s'agit des collectivités locales, ils disent pas touche. Alors que nous avons fait 50 milliards d'économies et que nous avons remis en cause, effectivement, un certain nombre de dotations. Et je demande aux maires, qui sont des êtres responsables, des citoyens qui ont le sens de l'intérêt général, parce qu'ils ne seraient pas dans cette fonction-là, dans ce mandat-là, eh bien, d'assurer, justement, qu'on puisse faire des économies sans remettre en cause l'investissement.
Nous avons donc encore un quart d'heure de questions qui peuvent vous être posées, Monsieur le Président de la République, et nous donnons maintenant la parole à Denis, qui nous appelle du département d'Eure-et-Loire. Bonjour, Denis.
Oui, bonjour, Monsieur Calvi. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour.
Je suis sincère avec vous. Je n'ai pas voté pour vous. J'ai ma carte d'électeur qui est votée, qui est tamponnée à chaque élection. Donc c'est pour ça que je me permets de parler. Parce que faut au moins, on a des droits, donc faut au moins les faire. J'ai pas les mêmes convictions que vous, mais j'apprécie quand même l'homme et la fonction. Donc voilà. Moi j'ai mon fils, mon grand, qui fait l'école de police. Et il nous a dit que il s'entraînait donc au tir, ce qui est normal, et que c'est avec des vieux Beretta. Donc à force de les mettre dans les étuis, tout ça, les mires sont usées. Alors j'ai un peu de mal à comprendre, parce que quand ils vont sur le terrain, qu'ils ont le droit de porter l'arme, ils n'ont pas des armes neuves. Alors je sais qu'elles sont, c'est ce qu'il nous a dit, qu'elles étaient révisées. Mais quand vous voyez qu'il leur donne 2 secondes pour pointer, pour tirer, quand on voit ce qu'on a en face maintenant, je peux vous dire que je dors encore maintenant parce qu'il fait l'école de police, mais quand il va sortir de l'école de police, je vais avoir du mal à trouver le sommeil en sachant que vous savez ce que c'est d'être père de famille.
Denis, vous posez la question des moyens qui sont attribués à la police, notamment dans sa lutte contre la grande criminalité et l'extrême violence que l'on voit parfois avec des kalachnikovs et des armes terribles dans les rues de notre pays. Que peut-on faire, Monsieur le Président de la République ?
D'abord, moi je réponds à tous les auditeurs, quel que soit leur vote et leur conviction. Et je vous remercie, monsieur, d'avoir posé la question comme vous l'avez fait, c'est-à-dire en citoyen, qui a le devoir d'interpeller le président de la République sur ce qu'il considère comme essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la vie de votre fils, qui a choisi un métier très difficile, très courageux, la police, et en même temps sur la sécurité de nos concitoyens. Je ne vais pas revenir sur le passé. Des crédits ont été supprimés pour la police, et on en voit les conséquences ces années où, de 2007 à 2012, où il était tenu un discours et où les actes ne suivaient pas. Et nous sommes en face, aujourd'hui, de délinquants qui ont des armes et qui les utilisent, et qui deviennent donc des criminels. On a encore eu, hélas, la vérification tragique avec ce policier qui était entre la vie et la mort, et je veux ici saluer sa famille qui l'entoure. Et tous ces collègues qui se sont également manifestés pour exprimer leur inquiétude par rapport à cette criminalité. Donc, ce que j'ai décidé avec le gouvernement de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, c'est de lutter contre les trafics d'armes. On a parlé tout à l'heure des trafics de drogue. C'est finalement les mêmes organisations. Trafic d'armes, trafic de drogue, mais aussi terrorisme, quelquefois, qui se trouve financé ainsi. Donc, lutter contre le trafic d'armes. Deuxièmement, doter la police de nouveaux moyens. Je recevrai cette semaine les syndicats de police et je ferai là aussi des annonces qui vont dans cette direction. Enfin, il y a la solidarité de la nation. C'est très important et je l'avais souligné au moment des attentats où les policiers avaient été également frappés, que nous puissions exprimer notre conscience de l'extrême dangerosité de ce métier. Métier de policier, métier de gendarme. Donc dans les écoles de police, puisque c'est la question qui me posait, tous les moyens doivent être donnés pour que ces policiers puissent être le mieux formés possible avec le meilleur matériel.
Vous venez d'évoquer la question du terrorisme et de notre combat contre ce terrorisme que vous menez en tant que chef de l'État, notamment en Syrie. Nos frappes visent-elles des Français en Syrie, Monsieur le Président ?
Nos frappes visent des lieux d'entraînement des terroristes en Syrie.
Où se trouvent des Français ?
Je ne peux pas aujourd'hui savoir qui s'y trouve. Ce que je sais, c'est que sur les lieux qui me sont désignés comme pouvant être des frappes, il y a des terroristes qui s'entraînent pour mener des combats en Syrie, mais qui peuvent également s'entraîner pour aller poser des bombes dans notre pays.
Un terroriste n'est plus forcément français.
Et comment voulez-vous savoir ? Il y a aujourd'hui à peu près 600 Français qui sont sur les zones de combat, Syrie, Irak. Et nous avons la certitude que ceux-là, à un moment ou à un autre, peuvent revenir. Donc nous avons le devoir de les neutraliser. Quand ils reviennent, de les arrêter et de les faire condamner. Mais quand ils sont sur place, je ne peux pas savoir où ils sont.
Et ils ne sont pas des cibles en tant que telles, c'était le sens de ma question.
On ne peut pas dire, on va frapper telle ou telle catégorie de terroristes. Nous frappons les camps d'entraînement des terroristes.
Nous continuons ce dialogue avec les auditeurs d'RTL au 3210. Bonjour Joachim, vous nous appelez de la Somme, de Montdidier très exactement.
Oui.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour monsieur le président de la République. Je me permets de vous poser une question en matière de sport. Vous qui êtes un grand amateur de sport, d'après ce que je sais, et notamment de football, je voulais vous interpeller sur le rapport que RTL a produit la semaine dernière sur les dérives prosélytes et communautaristes observées dans les clubs partout en France. En liaison avec le terrorisme, il s'avère que de plus en plus, nous trouvons au milieu associatif sportif, à la mi-temps, l'heure de la prière sur les terrains, des Corans, des tapis de prière, des cours d'arabe, et un prosélytisme qui porte sur notre jeunesse. À l'époque du danger du communautarisme et du terrorisme, ne pensez-vous pas qu'en la matière, ce rapport sorti par, je dirais, le service central du renseignement territorial est essentiel et n'est pas demain une cause d'attentats, quand on sait que Moussa Koulibaly était lui-même passé par un club de boxe de Mantes-la-Jolie, et que notre jeunesse n'est pas en train de tomber entre les mains d'un prosélytisme salafiste.
Faut-il parfois interdire, je vais au bout de la question, Joachim, si vous m'autorisez, certains clubs de sport dont on sait, les RG viennent d'en témoigner, même s'ils ne s'appellent plus les RG, par une note qui a dû vous être transmise, monsieur le président de la République, faut-il parfois interdire certains clubs dont on sait qu'ils font du prosélytisme en matière d'extrémisme et de radicalisme musulman ?
Merci, monsieur, pour votre question. Le sport est une formidable école pour justement lutter contre la violence et contre le fanatisme. Sauf s'il est détourné. Et c'est là que nous devons intervenir. Il n'y a pas de cas général, mais il y a suffisamment de cas particuliers, vous les avez rappelés, qui laissent penser qu'il y a des tentatives d'utiliser un certain nombre de clubs ou de compétitions pour faire un travail de prosélytisme. Alors, il y a toujours eu des clubs qui pouvaient parfois avoir des connotations communautaires. Nous avons veillé à ce que ce type de comportement ne puisse pas être généralisé dans certaines fédérations. Mais là, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de tentatives de détourner des jeunes et de les emmener vers d'autres activités que le sport. Et ça, ce serait extrêmement grave. Donc je peux vous assurer que nous sommes d'une très grande vigilance et que les associations qui pourraient se constituer pour faire apparemment du sport, mais pour utiliser des jeunes qui veulent faire du sport pour les emmener vers des voies qui sont celles du fanatisme, ces activités-là seront proscrites et ces auteurs condamnés.
Une question SMS qui nous ramène à la politique française. Si une, deux, voire trois régions sont remportées par le Front National, considérez-vous ce résultat comme un échec personnel, monsieur le Président ?
Vous savez, quand des votes se font, ils ont toujours un impact en France et à l'étranger. Une région qui serait dirigée par le Front National, ça aurait des conséquences, y compris dans les décisions que ces élus auraient à prendre, de discrimination, d'abandon d'un certain nombre de politiques sociales ou de politiques à l'égard des familles, en faisant des distinctions entre ces familles. Ça aurait des conséquences économiques. Des grandes régions qui sont ouvertes vers l'extérieur, qui d'un seul coup verraient un certain nombre d'activités économiques remises en cause. Donc ça mérite que chacun comprenne bien, pas mon rôle, je ne suis pas candidat aux élections régionales, c'est pas mon rôle de dire ce que le pays a à faire, mais de réfléchir quand même aux conséquences. Et puis, il y a l'image internationale. Et plusieurs fois, je suis interrogé sur ce que représente l'extrême droite dans notre pays. Et avec des conséquences, on parlait d'attractivité tout à l'heure, d'investisseurs. On parlait de commerce extérieur, d'emploi, de croissance. Ça aurait des conséquences. Et je préfère le dire, pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour que chacun soit bien informé. On joue pas avec ce type de comportement, de vote simplement pour envoyer un avertissement, parce qu'on n'est pas content, parce qu'il y a de la colère, parce qu'on veut s'en prendre à ceux qui ne nous ressemblent pas.
Parce qu'il n'y a pas de résultat.
Mais s'il n'y a pas de résultat, il y a plusieurs manières de l'exprimer quand il n'y a pas de résultat. Et je ne veux pas laisser penser qu'il n'y a pas de résultat. Il y a des résultats. Après, à chacun de juger. Mais les votes, je pense que chacun doit être conscient de ce qu'il a à faire. Chaque citoyen est responsable. Pour ce qui me concerne, en tout cas, je fais en sorte que la France puisse se regarder elle-même comme un grand pays.
Et si Marine...
Un grand pays comme la France ne se replie pas, ne se recroqueville pas. Je vais parler des réfugiés, puisque cette question n'a pas été posée. Mais je vois bien comment elles travaillent, les sociétés. Il vient de se passer un scrutin en Suisse. En Suisse, taux de chômage, 3%. Croissance, 3%. Donc on ne nous dise pas que c'est un problème économique. En Suisse, le premier parti est un parti de droite extrême, qui considère que l'étranger, il peut être français d'ailleurs, hein, pour les Suisses, que l'étranger est le problème, est le sujet principal. Mais la Suisse peut vivre dans ses conditions de neutralité, n'est pas dans l'Union européenne. Mais enfin, ce n'est pas facile déjà pour la Suisse. On voit ce qui se passe en Allemagne.
Oui, justement.
On voit ce qui se passe. Je vais y venir.
En France, il se passe
en Allemagne.
Par rapport à
une élue qui s'est fait agresser par
une
personne d'extrême. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut raison garder. Les réfugiés, j'ai annoncé que la France en accueillerait 24 000 exactement. Enfin, on avait déjà pris des dispositions. 24 000 dans les deux ans qui viennent. Et en Allemagne, c'est 500 000. Qui sont déjà arrivés. Donc il y a un moment où il faut que chacun prenne conscience de ce qui est là ou de ce qui n'est pas là. Et n'utilise pas les réfugiés, les étrangers, ceux qui seraient différents, comme une peur qu'il faudrait absolument diffuser dans le pays pour avoir des suffrages.
Monsieur le Président, Marine Le Pen, pour un Français sur trois, ils disent aujourd'hui qu'ils sont prêts à voter pour elle, ce qui est une évolution constante, les chiffres sont en constante augmentation. Marine Le Pen en situation de gouverner. Un, est-ce que ça vous inquiète? Deux, vous sentez-vous, oui ou non, une responsabilité là-dedans, au terme de ce qu'est pour l'instant le bilan de votre quinquennat, même si vous allez me dire qu'on jugera le quinquennat quand il sera terminé?
Quand j'ai été élu, la candidate du Front National, Mme Le Pen, faisait déjà 18%. Aujourd'hui, ça a encore progressé. Et l'extrême droite progresse partout en Europe. J'ai ma part de responsabilité. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre pays, j'ai toujours une part de responsabilité, donc je ne vais pas l'évacuer. Je suis président de la République. Donc je ne vais pas essayer de me dissimuler, de me cacher chaque fois qu'il y a une difficulté. Je l'assume. Mais en même temps, j'essaye de la régler. Je ne suis pas spectateur, commentateur. Je me bats. Et si on ne se bat pas contre les idées de l'extrême droite, si on ne se bat pas contre les falsifications dont je parlais par rapport aux réfugiés, si on ne met pas la France en situation d'assumer ses choix, si on ne parle pas aux Français en leur disant « qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez une société où on se pose, où on se fracture, où on se combat les uns contre les autres, où on se divise, où on se sépare entre les quartiers, les zones rurales, les centres-villes ? » Si je ne dis pas aux Français la réalité, alors ils pourront m'en faire le reproche. Moi, je ne veux pas qu'on puisse me dire... terme de mon quinquennat, vous n'avez pas dit la vérité sur la situation du pays ou sur les
Monsieur
risques
le
que tel ou tel vote peut procurer.
Comment vous pouvez réconcilier ces deux France? Il y a la France des cités dont Manuel Valls disait qu'elle vivait un apartheid social, et puis il y a l'autre France, pas forcément fortunée, qui sent abandonnée et qui, en plus, montre son hostilité sur des questions parfois ethniques. Comment vous pouvez réconcilier ces deux France?
Et du coup, ce combat, êtes-vous tenté, au moment où nous parlons, de le mener en 2017?
Oui, ça c'est une autre question.
Je
suis président de la République, je dois le mener, ce combat.
Oui. Alors,
et nous sommes dans le même pays.
La réconciliation et
l'enjeu,
des deux
l'enjeu
France.
Pour diriger la France, l'enjeu posé au président de la République, en l'occurrence à moi-même, c'est est-ce que je dois tout faire pour que nous puissions vivre ensemble, avec des règles, avec des droits, avec des devoirs, avec des chances de réussir. C'est le projet collectif qui permet d'emmener un pays. Et si on veut séparer les Français selon leur lieu d'habitat, selon leur âge, selon leur couleur de peau, alors je vous assure que ce sera non pas le déclin, ce sera la faillite de l'esprit collectif et patriotique.
Et
moi, mon devoir, c'est de dire à celui qui habite dans un quartier difficile qu'il a sa chance pour réussir. Et dès demain, je vais proposer qu'on amplifie encore les moyens pour la création d'activités et pour la création d'emplois et pour la création d'entreprises. Et celui qui vit dans une zone rurale, qui a le sentiment qu'il est abandonné, que personne ne s'occupe de lui, qui paye toujours pour les autres, c'est de lui montrer aussi qu'il a cette possibilité d'avoir accès à tous les services publics, accès aux nouvelles technologies, et qu'il reçoit de l'État comme les autres, ça part. Et que l'État doit être solidaire aussi des zones qui sont les plus en difficulté, je pense, à nos agriculteurs. Parce que ce sont aussi eux qui nous assurent une alimentation sûre et une qualité de vie. Donc, je dois rassembler. Le rôle du président de la République, c'est de rassembler et de réunir les Français sur un projet. Quel est le projet ? La France doit avancer. La France doit se réformer. La France doit se moderniser. La France doit être compétitive. Mais elle doit être juste socialement et elle doit avoir le dialogue social comme méthode. Voilà ce que je veux faire jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de mon mandat. Et puis, je vous dirai le moment venu ce que j'ai à faire.
Bonjour Suzanne, vous serez la dernière intervenante de ce question-réponse avec le président de la République. Nous vous écoutons, je vous demande si possible d'être concise.
Bonjour messieurs, monsieur le président de la République. Voilà, je suis senior, j'ai 61 ans, ma mère est en maison de retraite publique, Fournier-Sarlovez à Compiègne. Le week-end, ils n'ont pas de ménage, parce qu'il n'y a pas le moyen de créer des postes. Pourriez-vous, éventuellement, avec madame Rossignol, qui est de la région, faire en sorte de créer des postes pour les hôpitaux publics à mi-temps pour les seniors. Merci, monsieur, répondant.
Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de spécifique pour les seniors, peut-être à mi-temps, comme le suggère... C'est une idée, hein, Suzanne.
Oui, c'est une bonne idée, voilà, de voir d'abord comment on peut, dans les établissements qui reçoivent des personnes âgées très dépendantes aujourd'hui, de renforcer un certain nombre de moyens. C'est ce qui va se faire avec la loi vieillissement. On va permettre, grâce à une réforme de l'allocation personnalisée à l'autonomie, de donner aux établissements plus de moyens et aux familles plus de capacité à garder au domicile les personnes très âgées. Et puis, il y a ce qu'on appelle les aidants, cette femme. Merci, madame, de l'avoir rappelé, qui, au-delà de ses propres besoins qu'il faut satisfaire, est amenée à accompagner, faire les soins d'un proche parent. Et là aussi, nous devons aider les aidants, c'est-à-dire favoriser justement le travail des seniors pour ces activités-là, parce que c'est essentiel pour assurer la solidarité entre les Français.
Quand inverse-t-on la courbe du chômage, monsieur le président de la République ?
Quand la croissance sera là, je pense qu'elle commence à se rendre plus robuste.
Et vous nous avez dit plus tôt dans cet entretien qu'elle était là, la croissance.
Oui, il y aura nécessairement une baisse du chômage. Et je vous ai rappelé quel était mon engagement constant. Je suis lié à cette obligation de résultat. Le chômage doit baisser et la croissance doit être la plus forte possible. Et toutes les réformes que je mène, toutes les actions que j'engage, c'est pour la croissance, pour l'emploi et pour la préparation de l'avenir.
Merci beaucoup d'être venu discuter avec les Français et répondre à nos questions ce matin sur RTL en direct, monsieur le président de la République.
Merci à vous et merci à ceux qui m'ont interrogé ici.
Olivier Mazur et François Langlais.
Voilà. Et aussi à tous les auditeurs.
Bonne journée à vous.
Merci.